Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi.
J'ai le plaisir de vous partager aujourd'hui mon échange avec Aurélie, créatrice de la marque de culottes menstruelles My Joy. Ce n'était pas prévu que je la rencontre pour cette série spéciale enregistrée au Salon International de la Lingerie. Mais après plusieurs péripéties, nous avons décidé de réaliser cette interview. Sans nous connaître, nous avons échangé quelques SMS le dimanche soir pour le lundi matin 10h et nous avons créé cet échange autour de l'intime, le cycle menstruel, la maternité, l'acceptation du corps et l'amour de soi. Merci à cette entrepreneuse et maman, aussi brillante que rayonnante, de s'être livrée avec autant de délicatesse au micro de Terres Intimes. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à vous y abonner. Cela vous permettra de ne rater aucune nouveauté. Je vous souhaite une très belle écoute.
Bonjour Aurélie.
Bonjour Juliette.
Comment tu te sens ?
Écoute, ça va, un peu stressée.
Donc effectivement, c'est une interview en public qu'on réalise au Salon International de la Lingerie. Donc j'ai une première question pour les personnes qui sont là. Est-ce que vous nous entendez bien ? Tout va bien ? Magnifique. Alors Aurélie, je te reçois aujourd'hui parce que tu as créé la marque de culottes menstruelles qui s'appelle My Joy et que l'organisatrice du salon m'a parlé de toi et m'a dit tu vas voir, Aurélie, elle est trop chouette. Donc je suis ravie de te rencontrer.
Merci.
On s'est rencontrés pour la première fois ce matin. On a échangé en texto hier soir et ce matin. Donc, c'est vraiment une relation toute neuve. Donc, c'est un plaisir pour moi d'accueillir des personnes dans Terres Intimes pour parler de leur parcours, pour parler de, des sujets qui sont importants pour elles. Donc, pour commencer, j'aimerais juste savoir si tu pouvais te présenter avec tes propres mots pour les auditeurs et auditrices.
Du coup, je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans, j'ai deux enfants. Et après avoir effectivement travaillé pendant 10 ans dans le monde de la robe de mariée, que j'ai adorée, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat féminin.
J'adore, parce que les robes de mariée, je ne savais pas du tout.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans les robes de mariée ?
Le hasard total, je passe devant une boutique, j'étais en une alternance et voilà, je me suis dit ça sera ça.
Et toi, tu t'es mariée ?
Non, je me marie cette année.
Oh là là, félicitations !
Merci.
Alors, on va revenir un petit peu en arrière parce que toi, ce qui est important pour toi, c'est de parler dans tes propres mots. Tu m'as dit les règles, la maternité, la liberté et la transmission. Donc, c'est des thèmes qui sont géniaux, je trouve, pour Terres Intimes. Donc, on va commencer au début avec tes premières règles pour savoir un peu, comprendre un peu ton expérience et ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené à créer My Joy. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de tes premières règles et tes premières expériences ?
Alors, moi, j'ai mes règles très tôt. J'avais 9 ans. J'étais en CM2 et elles sont arrivées pendant les vacances et classe de mère.
Super.
Voilà, c'est magnifique. Ma mère avait anticipé, peut-être que j'avais eu quelques symptômes et elle m'avait glissé dans mon sac des grosses serviettes hygiéniques. Donc la chance que j'ai eue quand j'étais en classe de mère, c'est que j'avais une copine qui était plus grande et qui avait ses règles. Donc j'ai été accompagnée par ma copine à ce moment-là à 9 ans. Et ensuite, ce que j'ai découvert, c'est les douleurs. Qui était très très forte chez moi, au point de rater l'école. Ça, ça a été le plus dur pendant 2-3 jours, clouée au lit. Et ensuite, il a fallu apprivoiser une nouvelle protection hygiénique que ma mère m'a dit qu'il fallait mettre. Et là, j'ai un peu déchanté.
C'était quoi cette nouvelle protection hygiénique ?
Le tampon.
Mmh.
Évidemment, la révolution du tampon, magnifique. Je me souviens qu'elle m'a dit il faut en mettre, c'est 10 fois plus pratique, tu vas voir. Alors là, c'était quand même un an et demi après. Et en fait, j'ai trouvé ça compliqué, douloureux, difficile. Mais je l'ai fait parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire. Mmh. Et que ma mère, on lui a dit que c'était ce qu'il fallait faire.
Ouais. Et tu te souviens du premier tampon, de la sensation que tu as eue et tout ce qui s'est passé ?
Ouais, je me souviens parfaitement comme c'était hier. Du coup, j'étais dans les toilettes chez moi et avec la porte fermée à clé. Et j'essaie de mettre mon tampon. Et je dis à ma mère, mais ça fait trop mal. Et elle me dit « Non, non, mais c'est rien. Après, t'auras plus mal. » Et en fait, je dis « Mais ça fait vraiment mal. J'y arrive pas. Je sais même pas comment on fait. » Donc en fait, c'est ça. C'est qu'en plus, c'est tellement de l'intimité que tu le fais seule, en fait.
Ouais. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai mis un tampon, j'étais dans un festival de musique en Corse. Et c'est un festival qui dure 10 jours et on a une journée au milieu pour aller à la mer et se détendre parce qu'on fait que travailler nos instruments. C'est un festival de musique. Et c'est une copine qui m'a sorti un tampon, qui m'a dit « touche pas là, tu fais ci pour aller à la mer ». Et j'avais trouvé ça vraiment très particulier. Mais le moment où on le met, on est quand même solo et les sensations sont particulières. Et surtout, je sais pas quelle est ton expérience pour les fins de règles quand tu mets un tampon au cas où, que t'enlèves le tampon sans, enfin qui est sec, mais
terrible.
C'est horrible.
Ouais, j'ai connu ça aussi, ouais, ouais. Bien sûr.
Et donc t'avais des douleurs très compliquées. Est-ce que t'as été accompagnée avec ces douleurs ou est-ce que t'avais des outils pour y faire face?
Très simplement, en fait, ma mère comprenait complètement que j'ai mal. Donc, en fait, aller à l'école n'était pas une option. C'est-à-dire que je pouvais vraiment rester chez moi. Mm. Non, c'était Doliprane, en fait. Hein, vraiment, des antidouleurs. Et reste au lit et ça passera.
Ouais.
En fait, c'est normal d'avoir mal quand t'as tes règles. Donc, voilà.
Aujourd'hui, tu penses la même chose, que c'est normal quand d'avoir mal?
En fait, non. Aujourd'hui, je comprends qu'il y a tout un accompagnement qui est nécessaire pour comprendre d'où viennent les douleurs et que... Et que non, c'est pas normal d'avoir mal.
T'as fait des tests à un moment donné par rapport à la douleur pour voir il n'y avait pas du tout la culture de l'endométriose, cette conscience-là. Donc est-ce qu'il y a un moment donné où t'as fait des tests pour observer ce qui se passait ou pas du tout?
Non, mais je te dis, en plus, moi, j'ai mes règles très jeunes, à 9 ans. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant 5 ans, tu vois, de 9 ans à 14 ans, de toute façon, l'endométriose, on n'en parlait pas du tout.
Ouais.
En fait, moi, j'avais mal et tout le monde me disait que c'était normal, point, quoi. Tu vois, et te plains pas trop, c'est bon, t'as tes règles. C'est pas...
Ouais, exagère pas, ça arrive à tout le monde,
quoi. Voilà.
Est-ce que tu sentais, dans l'imaginaire un peu autour des règles, des tabous? Tu sentais de la gêne, un malaise? Ou est-ce que c'était quelque chose qui... Vu que t'avais l'air d'en discuter avec ta maman, c'était quelque chose qui était assez fluide?
En fait, moi, j'ai aucun souvenir d'avoir parlé ça avec mes copines, par exemple. J'ai pas le souvenir qu'à l'école, on nous en ait parlé. On n'était vraiment pas... Enfin, c'était même pas... Je sais même pas si c'était un tabou. Au final, je sais que si, mais sur le coup, je pense même pas que c'est un tabou. Je pense que c'est un non-sujet et que ça reste à la maison. Et c'est quand j'ai eu 14 ans que ma mère m'a dit « Non, mais bon, prends la pilule, t'auras moins mal. » Et en fait, je me renseigne autour de moi et mes copines prennent la pilule...
Pour le règle.
Pour avoir moins mal.
Et ça a marché?
Ouais.
Parce que moi, j'ai pris la pilule et ça m'a pas du tout fait moins mal.
Ah mais après, moi, ça a changé mes règles. Ouais. Vraiment.
Et c'est quoi l'évolution de ton rapport aux règles? Parce que tu m'as dit qu'après ta grossesse, tu as dû changer de protection hygiénique. Donc j'imagine que là, il y a eu des changements. Mais est-ce que de cette adolescence jusqu'à cette après-grossesse, il y a eu d'autres changements ou ça a été plutôt fluide jusqu'à ce qu'après ta grossesse, tu aies dû te poser des questions?
Ouais, je me suis vraiment interrogée qu'à partir du moment où j'ai eu mon premier accouchement. Okay. En fait, c'était assez inconscient. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon retour de couche, je ne pouvais plus mettre de tampon. C'est-à-dire que je ne me voyais plus mettre un tampon. C'était pas sa place, en fait.
Mais on en parlait parce qu'on a fait une table ronde sur le postpartum et une table ronde sur les cycles menstruels. Et les deux fois, il y a des personnes qui étaient là qui en parlaient de leur accouchement et qui disaient qu'elles étaient choquées qu'on leur propose juste après l'accouchement tout de suite soit le contraceptif, donc ça c'était par rapport au couple, comme si la sexualité devenait revenir rapidement, soit le stérilé. Et il y en a qui disaient, mais moi je veux que rien ne me touche. Enfin, c'était quand même un traumatisme, que ça se passe bien ou pas bien, ça reste un traumatisme pour le corps. Et donc je comprends très bien qu'après, c'est les tampons, c'est niette. Donc t'es revenue aux serviettes hygiéniques et là t'as senti que ça te convenait pas?
Ouais, en fait j'ai senti que... C'est surtout qu'on a commencé à en parler en disant quand même que ces protections hygiéniques, il y avait un sujet sur la composition et la non-transparence. Et donc, j'ai pris conscience que je mettais des produits chimiques, en fait, au contact des parties intimes. Et c'est à partir de là que je me suis dit... Donc, en fait, c'est soit je mets des tampons, soit je mets des serviettes, mais c'est quoi les autres solutions?
Il n'y en avait pas du tout d'autres
La culotte menstruelle est arrivée à ce moment-là. La culotte menstruelle classique... celle qu'on met le matin et qu'on retire le soir. Celle-là est arrivée, donc j'ai sauté dessus. Mais j'ai un peu déchanté quand même.
Qu'est-ce qui t'a pas plu dans la culotte menstruelle?
Ce qui m'a pas plu, alors, c'est qu'en fait, on te dit vraiment tu la mets le matin et tu la retires le soir. Sauf que moi, quand j'allais aux toilettes à midi, je voyais bien qu'il y avait du sang au fond de ma culotte.
Ouais.
Et donc, j'ai essuyé avec du papier toilette. Et je remets le contexte, je suis dans une boutique de robes de mariée. Donc, j'en dirigeais une super belle, avec des toutes petites toilettes. Et en fait, quand je retourne aux toilettes à 15h, il y a de nouveau du sang au fond de ma culotte. Et là, je me dis, en fait, il faut que je me change. Mais comment je me change dans des toutes petites toilettes publiques? J'étais quasiment tout le temps en collant en plus, donc une chance sur deux de filer mes collants. Le coût aussi, ça coûte cher, culotte menstruelle. Et là, je me dis, il y a un problème. Donc, en fait, ce qui est terrible, c'est que je suis retournée sur des serviettes hygiéniques.
Ah ouais?
Parce que je voulais pouvoir me changer quand j'en avais envie.
Ouais, moi j'avoue que depuis que j'ai commencé les culottes menstruelles, je ne suis plus jamais revenue aux serviettes hygiéniques. Mais il y a eu des situations un peu cocasses, on va dire, quand je dois changer de culotte menstruelle en plein voyage au milieu de la journée. Bah, c'est chercher un sac plastique où mettre la culotte menstruelle.
Ouais,
est-ce qu'on la rince avant ou après parce qu'elle sera humide? Arriver à changer, faire des taches sur le pantalon parce que parfois le temps de changement, ça crée des problématiques.
Ça fuite.
Mais c'est vrai que déjà, je me suis sentie plus respecter mon corps quand j'ai mis une culotte menstruelle par rapport aux autres. Et en même temps, je pense que c'est juste, j'en pouvais plus de ces moments. Il y a tout un sketch d'une humoriste qui tourne sur Instagram, t'es peut-être tombé dessus, qui explique, qui parle de la serviette hygiénique qui s'accroche au string.
Ah, ouais,
et qui ne veut
sûr.
Absolument pas
ouais,
lâcher. Elle dit
sûr.
C'est comme si c'était l'amour de sa ouais. vie et elle ne veut pas s'en séparer. Et ça, j'en pouvais plus de
ouais,
ces situations
ouais.
avec les ailes qui restent collées sur la culotte. Donc c'est pour ça que j'ai pas changé, mais c'est vrai que essuyer la culotte menstruelle avec du papier de toilette pour essayer de tenir plus longtemps, ça reste pas la solution.
Non, et tu vois, moi je bossais du matin au soir en fait, dans cette boutique, donc j'avais pas la possibilité chez moi de prendre mon temps, de me changer,
ouais.
de... Là c'était en 3 minutes top chrono qui fait que j'allais aux toilettes, j'avais pas le temps en plus, tu vois, c'était...
Ouais.
Non, moi j'avais vraiment le sentiment que c'était de nouveau une solution, mais que ça réglait pas mon problème, en fait.
Ouais.
Ou alors qu'on me donnait tout d'un coup de nouveaux problèmes. C'est-à-dire qu'il me manquait la praticité du jetable. Un tampon, tu le mets, tu le changes en 2 secondes. Une serviette aussi. À côté de ça, on m'a apporté quelque chose de plus safe pour la santé. De bien mieux écologiquement, il n'y a pas de sujet. Mais en fait, on m'enlevait la praticité. Et quand t'es une femme... et que tu t'es battue pour être active et qu'on t'enlève le pratique. Enfin, voilà, c'était pour moi un non-sens.
Et toutes ces expériences autour du cycle menstruel, des règles, ça t'a poussé à créer MyJoy, qui est une entreprise qui fait des culottes menstruelles. Donc, t'as vraiment pensé, conscientisé quelles injonctions, quelle charge mentale, tout ce qui est autour. Et j'aimerais juste plonger un peu dans ces réflexions avant de voir la solution que tu proposes. Tu m'as parlé de charge mentale et culpabilité. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour toi de lié à la culpabilité quand on parle des protections hygiéniques?
Eh bien, ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que, en fait, je me suis dit, je suis en train de revenir à des protections hygiéniques qui polluent, qui sont faits dans des conditions qu'on ne connaît pas forcément parce qu'il y a zéro transparence. Donc, je culpabilisais de les utiliser. Et en même temps, j'avais l'impression qu'on me coupait en fait, de ma liberté de choix et qu'on me retirait du confort et de la praticité avec les culottes menstruelles. Donc, j'avais vraiment ce dilemme et je trouve qu'on culpabilise très vite. Et là, aujourd'hui, alors je fais un petit retour à aujourd'hui, mais... Aujourd'hui, je vois bien avec les femmes, quand je leur demande qu'est-ce que vous mettez comme protection hygiénique, en général, elles te disent culotte menstruelle et un peu de tampon. Mais pas beaucoup.
Comme si elles s'excusaient, quoi.
Et c'est terrible. Et en fait, je me dis, mais c'est fou comment, en fait, les injonctions de dire, mais il faut consommer mieux, il faut que ce soit écologique, il faut penser à la planète, il faut... Et du coup, les femmes qui, elles, pensent quand même aussi à elles, au côté pratique, mais en fait, elles culpabilisent et donc elles n'osent même pas te dire qu'elles mettent des tampons. Et je trouve qu'il y a un boulot à faire de déculpabiliser les femmes, en fait, là-dessus. Et on peut en parler sur tout. Hein.
Oui.
Dès que tu commences à dire que tu manges bio et qu'on te voit au McDo, on te dit, mais attends, tu manges bio, tu vas au McDo... Faut savoir quoi, tu vois.
Il faut choisir tout blanc, faire 100% parfaitement, selon une certaine morale.
Ouais.
Et justement, je pose souvent la question au salon de l'équilibre entre émancipation et injonction, parce qu'on parlait de la lingerie. Je trouve que c'est un sujet très spécifique autour de l'émancipation, la confiance pour se libérer, et en même temps, toutes les injonctions qu'il y a d'être sexy, d'être belle, de répondre à certaines normes. Et donc, comment tu penses qu'on peut faire pour donner des outils aux femmes, aux personnes menstruées, de choisir ce qui est bon pour elles sans créer d'injonctions? Quel discours il faut avoir?
En fait, je pense qu'il faut dire aux femmes, faites-vous confiance. Ça paraît très bateau ce que je dis, mais en fait, c'est tellement ça.
Ouais.
C'est tellement la base, le socle. C'est faites-vous confiance et suivez votre intuition. C'est-à-dire que si aujourd'hui, pour des raisons qui vous appartiennent, vous avez envie de mettre des tampons toute la journée, c'est OK. Si demain, vous voulez mettre des culottes menstruelles, c'est OK. Si vous allez en week-end et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec des lavables, vous prenez des serviettes hygiéniques pour X raisons, c'est OK. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est faites déjà ce que vous pouvez et c'est déjà pas mal. C'est un peu comme, tu sais, quand tu dis aux femmes... tu dis à une femme qui a 1000 rôles dans sa vie, mère, femme, chef, enfin, en tout cas, chef d'entreprise, ouais. ou une femme qui bosse, dynamique, à moitié maîtresse, à moitié tout ce que tu veux. Et tu lui dis, en fait, sois une bonne maman, oublie pas que t'es une femme. Et sois une femme, t'es pas que une maman.
Et sois une bonne chef d'entreprise aussi. Mais sois une bonne sœur, sois une bonne fille, ouais. Occupe-toi bien de tes proches.
Ouais, mais sois une chef d'entreprise qui réussit, mais passe pas trop d'heures, t'as des enfants quand même. T'es ouais. Une mère aussi,
ouais.
Tu vois.
Et qui garde les enfants quand t'es là au salon, par exemple?
Ouais, voilà.
Ouais.
C'est un sujet. Donc, il y a trop d'injonctions. Et en fait, on nous pousse à vouloir être un peu parfaite et ça crée une charge mentale qui est importante. Et c'est pour ça que je dis tout le temps aux femmes que je rencontre... Mais en fait, c'est OK, quoi, et c'est très bien, et c'est déjà pas mal, quoi.
Ouais.
Tu vois ?
C'est bien parce que tu utilises le mot charge mentale, et j'avais envie que tu nous définisses la charge mentale des règles. C'est quoi pour toi ?
C'est la logistique, c'est le fait de devoir anticiper, c'est toute cette partie-là, et même, tu vois, quand on parle, on invente cette culotte menstruelle qui est géniale, mais elle rajoute une charge, elle rajoute du boulot. Il faut la laver, cette culotte. Il faut penser à faire une machine, il faut que ça sèche. Tu vois, donc,
ouais.
Et après, il y a de la
oui.
Réflexion. Il faut compter. Ça prend de la place dans ta tête.
Moi, j'ai l'exemple parfait. Je pense que je suis partie en voyage un mois au Brésil parce que mon partenaire est brésilien. Anyway, c'est pas très important. Et en fait, on a fait un road trip de 2 semaines et j'avais eu mes règles 10 jours avant. Donc, normalement, c'était bon. Je me suis quand même dit, je prends 2 culottes menstruelles au cas où. J'ai eu un cycle de 23 jours, ce qui m'arrive jamais.
Ouais.
Et donc j'arrive, on est en voyage, on voyage tous les 2 jours, on a 7 heures de bus pour voyager de ville en ville, on fait des randonnées. Enfin, c'était magnifique comme voyage, mais n'empêche que j'avais 2 culottes. Et alors là, c'était l'enfer, je devais le laver tous les soirs. En même temps, tu dois compter, puis t'achètes un tampon, mais t'achètes tout un paquet de 20 tampons
bien
que je vais pas utiliser. Et juste ça, c'est vrai que on se rend pas spécialement compte à quel point ça prend la tête. Et donc typiquement, toi par exemple, quand tu travailles toute la journée en magasin, t'es obligé de, en plus de toute la charge que t'as, de te demander comment ça va se passer, quoi.
Ouais, c'est exactement ça.
Ça, c'est la charge mentale des
règles. C'est la charge mentale.
C'est quoi la précarité menstruelle ?
La précarité menstruelle, c'est 5 millions de femmes en France qui ne peuvent pas, en fait, acheter suffisamment de protection hygiénique pour tenir tout leur cycle. Parce qu'aujourd'hui, les tampons, pour 5 ans, c'est 1 500 €. Parce que des culottes menstruelles, c'est cher. Parce que ça a été hygiénique, c'est cher. Et c'est un vrai enjeu. C'est actuel, là. On est en plein dedans.
J'ai lu des... Parce qu'il y a une loi qui a essayé de passer... Enfin, l'Assemblée nationale a proposé un texte pour faire passer une loi sur la précarité menstruelle l'année dernière. Et ils expliquaient donc 5 millions de femmes en France et 1 à 2 millions qui sont des mères célibataires ou des étudiantes qui, tous les mois, doivent choisir entre acheter des protections ou acheter un autre produit de première nécessité.
Ouais.
Et j'avais...
Sachant que c'est un produit de première nécessité.
Oui, sachant que c'est... On en a besoin. Et donc, ça fait des personnes qui ratent l'école parce qu'elles ne peuvent pas y aller. Ça fait des personnes qui ont des difficultés pour aller au travail. Et juste, j'avais besoin de faire une parenthèse sur la précarité menstruelle parce que... pour sensibiliser. Et donc, merci pour ce petit encart.
Et sache que, justement, ce matin, une fille d'une association est venue me voir parce qu'elle a été mandatée donc, par l'association pour trouver des protections menstruelles à distribuer aux collégiennes et aux lycées du 95 de sa ville. Et en fait, ils ont alloué un budget de 10 000 euros pour pouvoir offrir un maximum de protection hygiénique à ces femmes-là. Et moi, dans ma ville, dans le 92, pareil, on essaie d'offrir des culottes menstruelles aux collégiennes. Mmh. Donc, c'est avec le département qu'on fait ça, avec M. Siffredi. Donc, vraiment, je trouve qu'aujourd'hui, les collectivités s'en occupent. On essaie vraiment de chacun à son niveau d'en offrir. Il y a souvent des quêtes, des collectes de protection hygiénique en tout genre à distribuer. Donc voilà. Et la loi 2024, tu sais, qui va passer aussi, ouais, je crois, d'ici septembre prochain, qui rembourserait aussi des culottes menstruelles aux femmes en pharmacie.
Oui.
Sur ordonnance. Évidemment, il y aura un forfait, il y aura tout ça, mais c'est déjà un premier pas. C'est génial.
Merci beaucoup de le souligner, qu'il y a vraiment des choses qui sont mises en place pour ça. Dans Terres Intimes, donc là, on a vraiment parlé des règles, de ton expérience. Et donc, je t'ai dit que moi, j'aimais bien explorer les terres intimes des gens et leur parcours. Et en fait, j'ai aussi fait une table ronde sur le postpartum. Et donc, on en a un petit peu parlé. Et donc, je voulais savoir si tu pouvais... est-ce que tu pourrais me parler de comment tu as vécu ton postpartum et ce qui a été compliqué et ce que tu as apprécié dans cette expérience? Tu as eu deux postpartums parce que tu as eu deux enfants. Mais voilà, tu peux me partager ce que tu as envie de me partager sur le sujet.
Deux postpartums très différents. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que... Déjà, je trouve, ou alors c'était mon cas, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez général, on n'est pas suffisamment accompagné sur le postpartum. On devrait dire aux femmes dès la maternité, n'hésitez pas à consulter un psychologue. D'ailleurs, je vous conseille un psychologue. D'ailleurs, je vous fais une ordonnance pour un psychologue. D'ailleurs, je vous prescris plusieurs séances. Donc voilà, insister, pas juste le lancer comme ça. On devrait aussi dire aux femmes d'aller voir un ostéopathe, une ostéopathe, que ça leur fera du bien physiquement, émotionnellement. Leur dire aussi que ça dure 3 ans. En fait, il y a tellement d'informations qu'on n'a pas, je trouve. Quand on sort de la maternité, on devrait avoir tout un livret avec vraiment les accompagnements qu'on pourrait aller chercher pour vivre le mieux possible ce dernier trimestre de grossesse, en fait.
Ouais. Comment tu l'as vécu, toi ?
Moi, c'était très particulier. En fait, moi, à mon premier accouchement, j'ai failli mourir. Alors, c'est vraiment très complexe. C'est très différent. Moi, j'ai dû réapprendre à parler, à manger, à marcher. Je ne me suis pas occupée de ma fille avant un mois. Donc, c'était vraiment autre chose. Mais par contre, je ne m'attendais pas à 6 mois après pleurer. Par exemple, je ne savais pas que j'allais pleurer même 6 mois après. Et je m'excusais de pleurer en disant, je ne sais pas pourquoi je pleure. Ça fait 6 mois que j'ai accouché. Et en fait, je trouve qu'on normalise cette période-là alors qu'elle est charnière, en fait. Et moi, j'ai ma sœur qui vient d'avoir un bébé. Et à chaque fois qu'elle se sent un peu down parce qu'elle n'a pas dormi, parce que parfois, elle se sent un peu incomprise par son mari, parce que... Je lui dis, c'est OK, c'est normal, vas-y, pleure, profite, parce qu'après, tu ne vivras plus ça.
Ouais.
C'est un moment pas évident, mais tu as les ressources et on est là. Et voilà, je trouve qu'on manque vraiment d'accompagnement et de conseils.
J'ai une question, tu n'es pas du tout obligée d'y répondre. C'est qu'est-ce qui t'a... Est-ce que ça a été difficile de te dire que tu allais avoir un deuxième enfant après cette première expérience? Et qu'est-ce qui t'a... aider à te dire OK, j'y vais?
Bon, oui, forcément que ça a été complexe. C'est vrai qu'il y a 5 ans d'écart entre mes deux. Mais en fait, j'étais sûre que ça allait le faire. En fait, j'avais déjà traversé presque le pire. Qu'en fait, ça t'arrive pas 2 fois en général.
Ouais, ouais.
Donc voilà, j'étais sûre que ça allait le faire et j'ai été encadrée complètement différemment. J'ai acheté un super livre sur le 4e trimestre. Je savais tout, j'avais tout préparé avant. Il fallait que je le vive le plus normalement possible en étant consciente de tout ce que ça allait impliquer.
Ouais. Justement, il y a ce débat, on en a parlé pendant la table ronde, le débat entre savoir... vraiment savoir tous les risques, tout ce qui peut se passer, les difficultés, les challenges du postpartum, et se renseigner, mais pas trop, parce que ça peut stresser, ça peut faire peur. Comment tu, avec le recul et les deux expériences, qu'est-ce que tu aurais à apporter sur cet équilibre qui est délicat à trouver?
En fait, il y a des choses... Effectivement, il ne faut pas tout savoir... Il ne faut pas tout savoir, mais en même temps, il faut savoir les gestes qui peuvent tout faire basculer, qu'il ne faut pas vivre. Il faut savoir quelles sont les limites. Il faut savoir aussi quelle place toi tu as en tant que maman qui va accoucher. Et ce que je veux te dire par là, c'est que souvent les femmes, en fait, elles ont l'intuition de savoir beaucoup de choses, mais en fait, elles n'osent pas le dire. Et le corps médical a toujours raison, en fait. Moi, c'est ce que j'ai vécu pour mon premier. Et ça, c'est hyper dur. Donc, ne pas connaître toutes les histoires un peu dramatiques qui existent, oui, parce que c'est clairement anxiogène. Mais au moins juste remettre la femme à la place où elle doit être, c'est-à-dire elle est actrice principale de son accouchement. Et que si elle ressent des choses et que si elle a des envies, des volontés ou des peurs, et à juste titre, qu'elle arrive ou non à l'expliquer, en fait, il faut l'écouter. C'est juste ça, je trouve, qui manque aujourd'hui. Moi, on m'a pas dit que si tu ressens un truc, fais-le savoir et ne lâche rien, quoi.
Oui, en fait, c'est des moments où c'est très difficile de lâcher parce qu'il y a une confiance dans le corps médical, il y a une envie d'y croire.
Qui t'est imposée, hein.
Mais oui, qui
t'est imposée. Et moi, en deux mots, et parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais tu vois, moi, j'ai perdu les os à l'hôpital. Enfin, juste avant d'arriver à l'hôpital, pardon, je me rends à l'hôpital et on me fait accoucher 4 jours après. Et en fait, moi, au bout de 3 jours, je dis là, mon corps ne peut plus, je le sens. Il faut me faire une césarienne. Ça ne va pas le faire. Et en fait, on ne t'écoute pas. Non, on ne fait pas césarienne comme ça en France. C'est un petit caprice de faire une césarienne, madame. Vous allez accoucher comme tout le monde. Et pourtant, je suis dans un hôpital très, très connu, très réputé, de niveau 3. Et voilà, donc vous allez accoucher comme tout le monde et on va vous aider. Ça va bien se passer, détendez-vous. Et ça a été une catastrophe, à tel point que j'ai eu une césarienne d'urgence et plusieurs. Et voilà. Et juste parce qu'on ne m'a pas écoutée, en fait. Mon utérus a en fait lâché. Au bout de 4 jours, il n'en pouvait plus.
Et tu l'as senti,
quoi ? Et je le savais. Mais je ne pouvais pas l'expliquer, je ne pouvais pas l'argumenter, je ne pouvais pas le documenter, tu vois ?
Ouais.
C'est une intuition. Et c'est tout mon combat aujourd'hui, à travers les règles, à travers tout, c'est suivez votre intuition, vous savez vous-même ce que vous avez à faire.
Est-ce que pendant les postpartums, tu pourrais nous dire ce qui t'a aidé ? S'il y a des outils, des livres spécifiques, je ne sais pas, des podcasts, mais aussi des personnes qui ont eu un rôle clé dans la reconnexion à ton corps, à toi-même et dans la guérison. Je ne sais pas si guérison, c'est le mot juste, mais de ces traumas et de ces expériences.
Ouais, je pense que déjà, une fois que tu as compris que le postpartum, c'était une période de convalescence, mais c'est pas du tout négatif. Hein. Moi-même, j'ai eu une deuxième grossesse parfaite avec un accouchement parfait et un postpartum parfait. Mais c'était un moment de convalescence. C'est-à-dire qu'on a fait un marathon, on est crevé et on va continuer. Donc en fait, c'est juste un moment de parenthèse où il faut prendre soin de soi plus que jamais. Et donc ça passe par moi, ce que j'ai adoré, ce qui m'a clairement accompagnée, sauvée, tout ce qu'on veut, c'est l'ostéopathie. Donc, aller voir une ostéopathe régulièrement, toutes les 3 semaines, pour se faire du bien, pour remettre les choses en place, pour se faire masser. Et ça fait du bien à la tête. Ne pas hésiter aussi à aller... J'ai une copine, son mari lui avait offert une journée dans un institut spa génial, tu vois, pour qu'elle se reconnecte à elle. Alors, c'est pas toujours facile quand t'as l'aide et tout ça, mais même 1 heure, 2 heures, une demi-heure, un massage, c'est juste de dire, tu sais, un moment pour te reconnecter aussi à toi, en te connectant à ton bébé. Et pour mieux te connecter à ton bébé, en fait, il faut être aussi reconnecté à soi. Ouais, c'est ça les conseils. Et les livres, oui, il y en a plein. Et donc, il y a ce livre que moi, j'avais beaucoup aimé qui s'appelle « Le quatrième trimestre ». Il y a des podcasts canons comme La Matrescence. Aujourd'hui, vraiment, on a accès à beaucoup d'informations. On peut aller chercher des outils. Et les professionnels de santé peuvent aussi accompagner. Aller voir une psy, ça fait du bien. Même si on sent qu'il n'y a rien, c'est peut-être raconter juste son accouchement, où on en est. Ça peut être 3, 4, 5, 6 séances, ça suffit. Mais en fait, ça permet juste de se livrer, de poser les choses et du coup d'avancer.
Aujourd'hui, c'est quoi ton rapport avec tes règles et avec ton corps ?
Moi, les règles, du coup, avec mes accouchements, ça a été compliqué. Parce que du coup, je fais des kystes hémorragiques à chaque règle, histoire de me rappeler mon premier accouchement. Parce que j'ai fait une hémorragie massive. Et en fait, donc ça a été très compliqué parce qu'à chaque règle, je repensais à mon accouchement. Bon, là, c'est propre à mon histoire. Mais aujourd'hui, je me sens très bien. C'est-à-dire que quand j'ai mes règles, je suis contente. Je me dis que mon corps fonctionne bien. C'est vraiment un signe de bonne santé et que je dois le vivre de la meilleure des manières, c'est-à-dire en l'acceptant et en acceptant les petites contraintes qui peuvent être liées. Et je m'offre la meilleure protection hygiénique pour ma santé, pour ma charge mentale, et je me lâche la grappe.
Très important de se lâcher la grappe. Mais écoute, moi j'ai trois dernières questions. J'ai une question, c'est sur l'amour, mais parce que je ne peux pas m'empêcher de poser des questions sur l'amour, parce que tu m'as dit que tu étais avec ton mari depuis très longtemps. Mari depuis très longtemps. Bon, c'est les rêves qui sont influencés par Disney, tout ce que tu veux, mais comment on nourrit une relation pendant 20 ans et comment on en prend soin ?
Alors effectivement, j'ai rencontré mon chéri il y a 20 ans, j'avais 15 ans. Non, bah, il y a des hauts et des bas, ça c'est ok, il faut régulièrement s'harmoniser, remettre les choses en place, parce qu'en fait on évolue, surtout nous de 15 à 35, bah, on a changé. Et il faut juste, même si on ne change pas de la même manière, il faut s'assurer qu'on est toujours en phase. Et pour ça, il faut communiquer. Je crois que la clé dans le couple, c'est... je ne vais pas dire communiquer parce que c'est très bateau. Mais c'est juste s'assurer qu'on est toujours... qu'on a toujours envie de rendre cette personne heureuse, en fait. C'est quand tu te mets en couple, tu aimes tellement la personne que ton but dans ton couple, c'est presque de l'accompagner dans ses projets, dans ses rêves. C'est une équipe que l'on forme, c'est de le rendre heureux. Et quand tu as toujours envie de le rendre heureux, alors tu trouveras toujours toutes les solutions à tous les problèmes que tu vas rencontrer. Donc voilà, c'est constamment s'harmoniser. Après, nous, on a mis en place, après avoir deux enfants, le fait de se retrouver une fois toutes les deux semaines, tous les deux, lors d'un dîner, de faire garder les enfants. C'est quelque chose qui n'est pas évident au départ. Tu culpabilises. Vraiment, je me dis, oh, j'aurais pu ramener mes enfants au resto, c'est bon. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Donc, s'offrir de quelques moments de parenthèse, ne pas non plus les figer dans le temps sur un calendrier, se faire confiance. Puis, il y a des jours où on communique moins, et puis il y a des jours où on communique beaucoup. Mais c'est juste s'assurer qu'on est toujours en phase dans l'envie de s'accompagner mutuellement sur nos vies privées et du coup sur notre couple.
J'aime beaucoup quand tu dis qu'effectivement, on change énormément. J'ai vu l'interview d'un acteur qui joue dans The Big Bang Theory et justement, on lui posait cette question. Il est avec son mari depuis super longtemps et on lui posait la question, quel est le secret ? Et il disait, c'est accompagner l'autre dans ses explorations de la personne qu'il veut devenir. Et il parlait lui-même qu'il avait demandé à une femme dans la rue qui lui disait, ah non, mais moi, j'en suis à mon 38e mari. C'est toujours le même mari. Mais j'ai l'impression que c'est mon 38e dans les changements qu'on a. Et je trouve que ça, c'est vraiment... et j'aime beaucoup quand tu dis vérifier qu'à chaque nouveau nous, on vérifie qu'on peut s'harmoniser et qu'on a envie. Donc c'est hyper beau. Toi, t'as l'impression d'être à ton 38e mari depuis tes 15 ans.
Bah ouais, parce qu'effectivement, on a changé de métier tous les deux. On a eu l'accouchement, des choses très dures. On a eu des bébés qui ont bouleversé nos vies, surtout le deuxième. Et en fait, tous ces événements de vie font que tu changes terriblement. Et c'est ça, je crois, parfois qui tue des couples. C'est parce qu'en fait, on change. On a d'autres aspirations, on pense autrement. Et il faut en fait accompagner l'autre dans sa transformation. Ouais. Et moi, ouais, mon mari vient d'avoir 37 et je lui ai dit, mais en fait, t'as jamais été aussi beau qu'à 37 ans, t'as jamais été aussi intelligent qu'à 37 ans. Et en fait, j'ai jamais autant aimé que toi à 37 ans. Je t'ai jamais autant aimé parce qu'aujourd'hui, ce qu'il est, c'est encore mieux qu'hier et il sera encore mieux demain parce qu'on se porte en fait les deux.
Merci. J'ai un gros sourire sur mon visage, j'adore. J'ai les deux dernières questions. Tu m'as parlé de l'importance de la liberté. C'est quoi pour toi la plus grande liberté qu'une femme puisse vivre ? C'est c'est une grande question.
J'ai pas la réponse parce que c'est très complexe, mais moi, il y a une chose qui fait que je me sens libre aujourd'hui, c'est que je suis capable d'écouter mon intuition et je l'écoute.
Ouais.
Voilà, ça c'est ma liberté. J'ai pas besoin de me justifier si je sens pas un truc, je l'exprime. Et j'y vais si je sens que c'est bon, en fait. Donc, suivre son intuition, c'est la plus belle liberté qu'une femme peut s'offrir.
Et ma dernière question, qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a 15 ans, si tu pouvais l'avoir devant toi ?
Je pense que je lui dirais continue, avance, crois en l'univers, continue d'apprendre, fais-toi confiance, et ça va le faire.
Merci beaucoup Aurélie.
Merci Juliette.
Et voilà.
Ben voilà.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et que le parcours d'Aurélie vous a apporté inspiration et douceur. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Terres Intimes, à lui mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire sur Apple Podcasts. Ce serait vraiment génial. Aussi, pour aller plus loin sur le thème du cycle menstruel, vous pouvez découvrir l'épisode 25, qui n'est autre qu'une table ronde sur le sujet avec trois femmes formidables. Encore un grand merci à Aurélie, et évidemment, merci à Théo Carlini au mixage son et à Didier Benetti pour la musique de Terres Intimes. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série spéciale dédiée au bien-être intime.